d'accueillir le père Antoine Vidalin, qui a été élève à l'école des mines, qui a passé son bac de théologie, qui est docteur aussi en théologie, et qui enseigne maintenant au collège des Bernardins, qui va nous parler du De Trinitate de saint Augustin. Je vous laisse la parole.
Merci. Bon, alors il se trouve que je pense que c'est une des raisons de mon invitation. On a travaillé avec le père Florent le semestre dernier, la Trinité, et en particulier donc on a abordé le De Trinitate. Je crois que c'est la dernière œuvre que vous voyez dans le cycle. Vous avez vu déjà les Confessions et la Cité de Dieu peut-être.
Oui, c'est ça.
Et le De Doctrina.
Un petit peu le De Baptisme.
D'accord. Voilà. Je vais vous donner certains éléments sur le De Trinitate. Je ne vais pas vraiment faire une conférence, parce que ce qui m'intéresserait, c'est qu'à un moment, on lise ensemble de près quelques moments très intéressants où Augustin franchit des étapes assez immenses dans l'histoire de la théologie, dans l'histoire de la pensée, et aussi pour l'histoire de notre propre civilisation occidentale. En quelques lignes, vous allez voir. Alors, premier point, sur l'histoire un petit peu de la composition de cet ouvrage majeur, qui est en 15 livres. Vous voyez, j'ai les deux volumes de la bibliothèque augustinienne, donc c'est un 15 livres. C'est un ouvrage qui a été écrit sur du long temps, puisqu'il a été commencé en 399 et publié en 419. Donc il a écrit pendant 22 ans. À vrai dire, il avait donc commencé, c'est pour la petite histoire, mais c'est intéressant au niveau plus que de l'anecdote, mais il cherche, je vais vous dire un petit peu son propos, il cherche une intelligence de sa foi, si on devait dire en quelques mots, et une intelligence de sa foi en Dieu Trinité. Et donc il a beaucoup travaillé, comme on le sentira. Et puis, cet ouvrage, pour un certain nombre de raisons, a été un peu, pas laissé en plan, mais un peu inachevé. À la fois parce qu'il rencontrait des vraies difficultés dans l'élaboration de sa réflexion théologique, et puis parce que lui-même, comme pasteur, il était pris par d'autres tâches, par d'autres écrits. C'est le début aussi de la polémique avec Pélage, avec les Pélagiens. Mais donc cet ouvrage qui avait été laissé un petit peu de côté va être publié par des amis de manière sauvage, sans l'accord d'Augustin.
Sur Internet.
Et donc à cette occasion, l'évêque de Carthage, qui était un de ses amis, Aurelius, lui demande vraiment d'achever son œuvre. Donc en 418, Aurelius lui dit, mais écoute, il faut vraiment que tu termines et que tu publies sous ton contrôle. Enfin voilà, donc il y a vraiment un ouvrage achevé, et donc c'est ce qu'il a fait. Et en 419, donc, le livre est achevé. Alors, 399, on est à l'époque où, dans l'élaboration de la foi de l'Église et de son expression, telle qu'elle va se cristalliser dans le symbole de Nicée-Constantinople, en 381, on peut dire que les grands débats théologiques sur la divinité du Fils et sur la divinité de l'Esprit sont clos, ils ne sont pas encore pleinement passés dans la vie et dans la prière chrétienne, mais les controverses théologiques sur ces plans-là sont closes, et on a vraiment une expression de la foi qui demeure aujourd'hui, toujours, le symbole que nous récitons à chaque messe. Donc ça permet de voir que le De Trinitate d'Augustin n'est pas un écrit, à la différence de ses prédécesseurs, qui se confronte à des hérésies et qui est vraiment mis en demeure de leur répondre et d'élaborer un langage. Donc on est dans le premier moment, d'une certaine manière, où on n'est pas immédiatement dans un combat de la pensée, de la théologie, pour trouver son langage, pour trouver le langage de sa foi. Deuxième point, le titre même, De Trinitate, hein, le mot de Trinité, c'est tout un programme, c'est-à-dire que ce mot n'apparaît pas dans le credo, par exemple. On croit au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, mais le mot Trinité n'apparaît pas en tant que tel dans le credo. Alors le mot apparaît chez les Grecs, assez tôt, hein, dès le IIe siècle. Il apparaît chez les Latins, principalement chez Tertullien, hein, qui utilise ce mot de Trinitatis. Et puis, il apparaît chez Saint-Hilaire. Alors, Saint-Hilaire, c'est donc juste avant Saint-Augustin. C'est encore l'époque de la polémique, si on peut dire, enfin du débat avec les Ariens, avec l'hérésie arienne. Donc, ça va, ça, pour tout le monde, à peu près. Donc, Tertullien a écrit, avant Augustin, un De Trinitate. Donc, le premier grand ouvrage qui porte ce titre, c'est celui de Saint-Hilaire. Pas de Tertullien, de Saint-Hilaire.
C'est quoi l'hérésie?
Alors, l'hérésie arienne, alors je ne vais pas trop rentrer dedans, mais c'est une pensée qui nie la divinité du Fils, qui reconnaît au Fils, à Jésus-Christ, d'être un Fils adoptif de Dieu, peut-être la première des créatures, peut-être celui en qui tout a été créé, mais qui ne peut pas penser que le Fils soit à l'égal de Dieu. Et que... Parce que Arius reste dans des schémas philosophiques, au fond. Le drame de l'hérésie, c'est qu'elle reçoit moins la foi qu'elle cherche plutôt à un système philosophique, souvent. Et chez Arius, c'est ça. Il cherche un système qui contente sa raison, au lieu de partir de la foi telle qu'elle est reçue. Et... Donc, en fait, les gros combats avant, ça a été donc sur la divinité du Fils, avec l'hérésie arienne, et sur la divinité de l'Esprit, qui était contestée par ce qu'on a appelé les pneumatomaques, les adversaires de l'Esprit. Donc ça, c'est juste avant, c'est le siècle d'avant. Et donc, ceux qui se sont opposés à Arius, principalement dans le monde grec, c'est Saint Athanase. Et dans le monde latin, c'est Saint-Hilaire. Mais Saint-Hilaire était en exil en Orient, et donc c'est comme ça qu'il a lui-même reçu l'influence de Saint-Athanase. Et ceux qui ont répondu à l'hérésie, à ceux qui déniaient à l'esprit d'être Dieu, la divinité de l'esprit, ce sont les pères cappadociens, principalement Saint-Basile, et puis Saint-Grégoire de Nazianze et Saint-Grégoire de Nice. Voilà. Et Saint-Basile est celui qui a écrit donc un traité sur l'Esprit Saint, et qui d'ailleurs lui aussi déjà utilise le terme de trias pour dire la Trinité. Alors vous voyez que ce mot, c'est une sorte de c'est une fabrication, ce mot, ça dit à la fois, c'est basé sur le mot unité, et puis on rajoute le tri. Donc c'est dire justement ce paradoxe d'une unité qui est trine. Et Augustin, il arrive à ce moment où la foi de l'Église elle est exprimée, elle est confessée, elle ne bougera plus guère, enfin au niveau du credo, ne bougera plus guère. Mais et donc c'est le moment, d'une certaine manière, où cette foi qui est donnée, on va en chercher une intelligence. Et ça, c'est typiquement, c'est propre à Augustin, cet accent, c'est propre à toute la recherche théologique, mais Augustin en est vraiment peut-être celui qui l'a vécu le plus intensément, hein, vous connaissez son mot d'ordre, hein, c'est croire pour comprendre. Et donc, alors ça, c'est l'appui de ce croire pour comprendre, c'est un verset d'Isaïe, hein, Isaïe 7, dans la version de la Septante, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Hein, je ne sais plus quel est le verset, j'ai oublié ma Bible. Isaïe 7, quelque chose, hein, c'est... Ouais, alors je. Mais c'est un verset très important. Hein, chez Isaïe, on est dans le contexte de Jérusalem assiégée, et le prophète Isaïe dit au roi, mais si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. En fait, dans l'hébreu, c'est si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Il y a un jeu de mots sur le verbe hébreu de croire et tenir. Mais en grec, ça va devenir « si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Et donc, à partir de ce verset, Augustin va vraiment en faire une sorte de principe de toute sa recherche théologique, hein, de croire pour comprendre. et comprendre pour mieux croire. Voilà. Donc il y a une sorte de cercle vertueux entre la foi et l'intelligence. Mais ce qui est très important, je crois, pour aborder une œuvre comme le De Trinitate, c'est de bien voir que ce n'est pas une spéculation. Augustin n'est pas un philosophe génial qui aurait eu des idées géniales. Enfin, il est génial, mais pas comme le monde païen pourrait le penser. Hein. Il pense à l'intérieur de la foi. Alors je vais vous lire juste le début, comme ça, pour vous dire un peu dans quel état d'esprit il est. Donc, nous sommes déterminés à entreprendre, avec l'aide du Seigneur, la justification de cette affirmation, la Trinité est un seul et vrai Dieu. Et il est tout à fait exact de dire, de croire, de penser que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'une même et unique substance ou essence. Avant toute chose, c'est à l'autorité des Saintes Écritures de montrer si telle est bien la foi. Donc, on est vraiment d'abord dans la foi reposant sur l'autorité de l'Écriture Sainte. Et c'est ce qu'il va faire tout le long du livre, mais principalement sur les livres 1 et 4. Je redirai un mot. Et puis ensuite, il a une parole intéressante, mais est-ce que je ne vais pas la... Il y a un moment où... Oui, l'esprit humain, donc il montre bien, l'esprit humain n'est pas assez pénétrant pour se fixer sur une lumière aussi sublime, à moins de s'alimenter et de se fortifier avec la justice de la foi. Donc vraiment, Augustin pense à l'intérieur de la foi. Et c'est même ça, d'ailleurs, qui va le rendre génial. Mais bien comprendre, parce qu'on a parfois trop tendance à lire Augustin de manière philosophique, un peu comme Heidegger l'a fait, et en passant de côté vraiment ce socle hein, de sa démarche, ce fondement de sa démarche. Il y a un endroit, je ne sais plus, je ne le retrouve pas, où il dit justement que la raison seule, il ne faut pas... Il ne s'appuiera pas sur elle. Donc, il utilisera sa raison, mais à partir de la foi. Alors, quelques mots sur le plan de Trinitate. Donc, vous voyez, dans un premier temps, on justifiera la foi en la Trinité à partir de l'Écriture sainte, et dans un second temps, on essaiera de répondre à ceux qui ne la comprennent pas, qui ne l'acceptent pas, à partir d'arguments rationnels. Hein. Il dit qu'il veut trouver une intelligence de sa foi. Et en fait, alors ce que je vous propose, c'est pas, ça peut être discuté, mais pour moi, ça, je trouve que c'est assez parlant. Donc, en fait, vous avez une première partie 1 à 4, livre 1 à 4, où qu'on pourrait appeler la Regula Fidei. Il expose la règle de la foi. L'unité et l'égalité des personnes divines à partir de l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et en montrant particulièrement au livre 4 que les missions, le fait que le Fils et l'Esprit Saint soient envoyés, ne les rend pas inférieurs au Père. Hein, et que donc, parce qu'il lui faut toujours tenir à la fois l'unité et l'unité de la Trinité et l'égalité des personnes. Il n'y a pas de subordinationnisme. Il n'y a pas de personne, bien que le Fils soit engendré par le Père, il n'est pas inférieur au Père en étant engendré, et il n'est pas non plus inférieur au Père parce qu'il est envoyé par le Père. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est la Regula Fidei. Et puis ensuite, vous avez ce que l'on pourrait appeler l'Intelligentsia Fidei, l'intelligence de la foi, des livres 5 à 7. C'est surtout de ça que je vais vous parler. Et puis ensuite, il y a une autre très grande partie qui va des livres 8 à 14, qu'on pourrait appeler l'Experientia Fidei, l'expérience de la foi, parce qu'en fond, Augustin, une fois qu'il a, autant que possible avec son intelligence, essayé de comprendre le mystère de la Trinité, il va essayer de le contempler, et de le contempler, non pas directement, parce qu'il n'en est pas capable, mais à travers comme dans un miroir, à travers l'image de la Trinité, et cette image, c'est l'homme. Donc à partir du livre 8, il y a cette tentative de contempler la Trinité à travers l'homme, et donc vous avez les fameuses analogies de la mémoire, l'intelligence et la volonté, il y a tout un certain nombre d'analogies, mais ça je n'entrerai pas dedans. Et puis vous avez le livre 15 où il essaye d'achever son projet et en même temps c'est très beau d'ailleurs parce que il arrive à une sorte de constat d'impuissance, mais il termine par une prière, je terminerai par là tout à l'heure. Mais il y a un moment où au livre 15 il dit maintenant nous avons exercé notre intelligence sur les choses inférieures, c'est-à-dire sur l'homme, sur la psychologie de l'homme, pour essayer d'y voir une image de la Trinité. Voir par l'intelligence les mystères invisibles de Dieu à travers les choses créées. Et voici que maintenant, ayant exercé donc notre intelligence sur les choses inférieures, autant qu'il était nécessaire, plus peut-être qu'il n'était nécessaire, nous voulons nous élever à la contemplation de cette souveraine Trinité qui est Dieu, et nous ne le pouvons pas. Voilà, c'est quand même beau d'entendre Augustin au terme de ces 15 livres, de dire qu'il ne le peut pas. En fait, après, il y a encore toute la suite du livre, il y a 100 pages où en fait, il montre qu'il va donner des choses extrêmement fortes et géniales. Hein, mais fondamentalement, il ne le peut pas parce que, évidemment, il y a une dissemblance, il y a une ressemblance, mais il y a une dissemblance entre l'homme et Dieu. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est un petit peu des passages où vous allez voir justement cette élaboration d'une intelligence de la foi à partir du donné de la foi et comment Augustin, comme théologien, avance. Alors, un premier point qui n'est pas sur vos feuilles. Donc, je passe le livre 1 et 4. Ça aurait des livres géniaux, mais bon, il faut évidemment choisir. Donc, le livre 1 à 4, c'est la règle de la foi. Hein, donc, c'est là où il reprend, au fond, paisiblement, si on peut dire. Alors, même s'il débat avec les Ariens encore, mais c'est plus rhétorique. C'est plus pour avoir un appui dans son raisonnement. Donc il va, surtout à partir de l'Écriture sainte, rendre compte de l'unité de la Trinité et de l'égalité des personnes. Et puis à partir du livre 5, il va justement un petit peu essayer de donner une intelligence de cette égalité des personnes. Alors pour cela, il y a deux étapes que je vous signale avant qu'on aborde un petit texte que je vous ai sélectionné. La première étape, qui est un peu toute bête, mais là il n'est pas novateur d'ailleurs là-dessus, mais il le reprend, c'est important pour toute la suite de la théologie, c'est de nous rappeler et de nous dire que Dieu est substance, voilà, que Dieu est l'être par excellence, hein. Et sur quoi s'appuie-t-il ? Il s'appuie sur, à votre avis ?
Exode
3.14, voilà, bravo. Il s'appuie sur... Et qui donc est plus que celui qui a déclaré à Moïse son ami, « Je suis celui qui suis ». Donc, mais c'est très très fort parce que Augustin est quand même dans un monde philosophique plutôt néoplatonicien et on peut avoir à l'esprit l'un de Plotin, hein, qui n'est pas l'être, justement. Et c'est pas évident de dire que le divin est l'être. C'est pas évident dans le contexte philosophique des Grecs et du néoplatonisme. Et donc là, il y a un donné de l'Écriture, où Dieu se nomme celui qui est. Et donc, voilà, donc Dieu est substance. Donc là, il y a quelque chose de très fort, qui ensuite va lui permettre de... Et alors, il est une substance, mais il est une substance qui est immuable. Et parce que c'est une substance immuable, est-ce qu'elle peut avoir des accidents ? Ah, donc là, il va prendre, pour ceux qui sont philosophes, il prend la philosophie d'Aristote, hein, sur la question de la substance et des accidents. Et là, il va y avoir quelque chose d'assez génial, hein, qui est vraiment l'invention d'Augustin. Je vais vous lire quelques passages. Donc, Dieu est substance, mais en lui, il n'y a rien d'accidentel, parce qu'il est simple. Donc, il n'y a pas d'accident qui vienne s'accrocher à lui, si on peut dire. Parce que les qualificatifs de Dieu sont sa propre substance. Il est sa propre grandeur, il est sa propre puissance. Pas quelque chose qui serait éventuellement grand ou qui serait éventuellement puissant ou éventuellement sage. Non, il est sa sagesse, il est sa puissance, il est sa grandeur. Et alors, je vous lis donc ces quelques phrases. En Dieu, rien n'a de signification accidentelle, car en lui, point d'accident. Néanmoins, tout ce qu'on lui attribue n'a pas un sens substantiel. Il reprend un peu plus loin. En Dieu, point d'attribution au titre de l'accident, parce qu'en lui, il n'y a rien de mobile. Il ne s'ensuit pas toutefois que toute attribution ait un sens substantiel. Il y a en effet ce qui est relatif. Alors ça, c'est le coup de génie. Alors, l'idée n'est pas, il ne l'invente pas, l'idée, elle est chez Saint Basile, par exemple, le fait que les personnes sont entre elles relatives. Le Père, quand vous dites Père, vous dites ça relativement à un Fils. Quand vous dites Fils, c'est relatif à un Père. Hein ? Donc, on peut parler de Dieu, quand je dis Dieu est sage, c'est un qualificatif absolu, hein, ça concerne la substance. Mais quand je dis Dieu est Père, ah, je peux le dire, mais c'est relatif. Vous voyez ? Et donc il y a ce qui est relatif, par exemple le Père est relatif au Fils et le Fils relatif au Père, qui n'est pas un accident. Et pourtant, la relation, chez Aristote, c'est un accident. Mais, alors, je continue, l'un est toujours père, l'autre toujours fils. Toujours, non pas en ce sens que le père ne cesse pas d'être père à partir de la naissance du fils, mais en ce sens que le fils est né depuis toujours, et le fils n'a pas commencé à être fils, et le père n'a pas commencé à être père un jour où il aurait eu un fils. Donc ce toujours, très important. S'il avait commencé une fois d'être fils, on aurait là quelque chose d'accidentel. Voyez. Donc, vous voyez, il prend une catégorie de type accident, qui est la relation, mais la relation en Dieu n'est pas accidentelle. Mais elle est posée en Dieu, parce que père, c'est relatif à fils, et fils, c'est relatif à père. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez génial, parce qu'il va en tirer des conséquences très importante. Et justement, on va tout de suite en venir à c'est un petit passage que je vous ai sélectionné, qui est le numéro 12 du livre 5. C'est la première de vos feuilles. Enfin, c'est ça. Donc, je lis la première phrase du 12. Hein. Ah, j'en ai fait 30. J'ai fait 30 feuilles, vous n'êtes pas 30 quand même. 30. Mais attention, c'est des recto verso, hein, donc ne vous trompez pas. Alors, je lis juste la première phrase du 12. 5-12, hein, livre 5, numéro 12. Vous l'avez ? Affirmer au sens propre des réalités distinctes. Parce que vous voyez, la question c'est comment dans l'unité de la Trinité, il peut y avoir réellement des distinctions. Ça va ? Vous l'avez pas ? Bon. Affirmer des réalités distinctes dans la Trinité ne les désigne pas absolument en elles-mêmes, mais par rapport les unes aux autres, ou par rapport à la création. Bon, je passe, parce que ce qui m'intéresse, c'est la page suivante, enfin, le dos de cette feuille. Hein. Donc, le sens de l'expression Esprit-Saint, et je vous explique le problème, pour qu'on comprenne bien son raisonnement. Donc, si on veut parler de choses distinctes, ça veut dire que c'est sous l'angle du relatif, hein. Père relatif à fils, fils relatif à père. D'accord ? Mais alors, ça c'est très bien, mais pour l'Esprit Saint, comment on va faire ? Parce qu'il faut évidemment qu'on puisse le dire pour l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, il est relatif à quoi ? En plus, Esprit Saint, est-ce que c'est un nom en soi relatif ? Dieu est Esprit, substantiellement, et Dieu est Saint, dans toute sa substance. Saint ne désigne pas une des personnes, Saint, ça désigne Dieu. Esprit, ça désigne Dieu. Dieu est esprit. Donc, vous voyez la question qui va se poser. Et en quelques lignes, il va faire un pas de géant dans la théologie et qui aura des conséquences très, très, très importantes. On va le lire ensemble. Quant à l'Esprit Saint, cette expression peut se prendre au sens général, comme dans l'Écriture, Dieu est Esprit. Car le Père aussi est Esprit, le Fils est Esprit, et Saint aussi le Père, Saint le Fils. Par conséquent, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, et que Dieu est Saint et est Esprit, on peut appeler la Trinité Esprit Saint. D'accord ? Vous l'avez ?
Pour tourner la feuille.
C'est un recto verso, hein ? Ça va ? Vous l'avez ? Bon. Toutefois, cet Esprit Saint, qui n'est pas la Trinité, mais qu'on découvre dans la Trinité en raison du sens propre de l'expression Esprit Saint, donc la troisième personne de la Trinité, elle a un nom relatif. Elle a un nom donc qui se rapporte à autre chose, à quelqu'un, et en l'occurrence qui se rapporte, qui se réfère et au Père et au Fils. Pas seulement à l'un, mais aux deux, puisque l'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils. Seulement, la relation elle-même n'apparaît pas dans ce nom. Ça n'apparaît pas. Par contre, et c'est là, je voudrais vous faire un peu sentir comment il avance. On n'est pas dans la spéculation, parce que là, il va aller chercher dans l'Écriture un mot qui va lui permettre de nommer l'Esprit Saint autrement. Et ce mot, c'est celui de « don de Dieu ». Vous l'avez ? Elle apparaît en revanche dans l'appellation de « don de Dieu ». L'Esprit Saint est en effet le don du Père et du Fils. Alors là, il s'appuie sur l'Écriture, car il procède du Père. Et puis, comme dit « qui n'a pas l'Esprit du Christ, n'appartient pas au Christ », concerne assurément le Saint-Esprit. Et voyez-vous, ce qui est assez génial, c'est qu'avec ce mot de « don », il a un nom relatif, parce que qui dit don, dit donateur. C'est ce qu'il explique dans la suite. Ainsi, don du donateur et donateur du don, ce sont des expressions que nous employons l'une et l'autre dans un sens réciproquement relatif, parce que la relation, vous voyez bien qu'elle est nécessairement réciproque. Et là, on fait encore un saut. Donc, le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il est don, et qui est le donateur ? En l'occurrence, c'est le Père et le Fils. Parce qu'il est bien relatif à un donateur, mais ce donateur, c'est le Père et le Fils. Et donc, il y a un donc, le Saint-Esprit est une manière d'ineffable communion, donc mot très important qui apparaît ici, communion du Père et du Fils. Et peut-être porte-t-il ce nom, justement, parce que le Père et le Fils peuvent aussi s'en accommoder. En effet, on donne à titre particulier le nom qu'on leur donne à titre commun, Esprit et Saint, parce que Esprit, c'est un nom commun au Père et au Fils, et Saint, c'est un nom commun au Père et au Fils. Donc celui qui va être la personne qui exprime et qui est la communion du Père et du Fils, eh bien, il était finalement assez logique qu'on lui donne le nom qu'on donne à titre commun au Père et au Fils. Il fallait donc, et je poursuis, un nom applicable à eux deux pour représenter leur mutuelle communion, et l'on a appelé leur don à eux deux, donc au Père et au Fils, Esprit Saint. Voilà la Trinité unique, etc. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu la manière dont il avance ? Pour nos esprits, c'est très étonnant. On n'est pas... On n'est pas en philosophie, on n'est pas dans une sorte de déduction avec des principes qui ensuite conduiraient à des résultats. On avance à partir d'un donné de foi qui est contraignant d'une certaine manière. On parle de relations, mais c'est pas des accidents comme pour des substances normales. Et en même temps, il y a du relatif en Dieu. Et à partir de là, on arrive à avancer. Et à partir de cette idée de relation que Augustin va vraiment travailler jusqu'au bout, eh bien, il arrive à dire quelque chose d'extrêmement nouveau sur l'Esprit Saint, en faisant de l'Esprit, en montrant que l'Esprit, c'est pas qu'il fait, il montre que l'Esprit Saint est cette communion ineffable du Père et du Fils. Voilà. Donc c'est une première étape. Avant de poursuivre, est-ce que vous voulez réagir ou...
Tout le monde a pigé. C'est très bien.
Oui.
Utiliser le verbe procéder ici, il n'y a rien de... Alors, on le sait, il n'y a rien de chronologique, mais est-ce que dans la bouche de Saint-Augustin, il y a aussi rien de chronologique?
Alors, oui, alors là, quand il dit procéder, c'est un verbe de l'Écriture sainte, c'est en Jean 15. Hein, c'est quand Jésus dit l'Esprit qui procède du Père. Donc le verbe grec, c'est ekporeomai, c'est-à-dire l'Esprit qui sort du Père. Hein, c'est mot à mot. Hein, l'Esprit qui sort du Père. Ekporeomai ne précise pas plus que ça les choses. Hein, c'est un mot au départ assez banal. Hein, c'est sortir de. Je sors de la maison. Enfin, ekporeomai. Mais c'est vrai que ça dit une provenance. Hein, et. D'ailleurs, dans le credo, le Fils est engendré du Père et l'Esprit procède du Père. Hein, donc, il y a deux verbes différents, parce que sinon le Fils et l'Esprit seraient les mêmes. Hein. Ils viennent tous les deux du Père, mais l'un sous le mode de l'engendrement, l'autre sous le mode de la procession, de la sortie. Mais ce qui est nouveau ici, par rapport au credo, alors bien évidemment, nous on dit le credo dans le symbole tel qu'il a été modifié par les latins, puisqu'on a rajouté, vous connaissez cette histoire, hein, l'Esprit qui procède du Père et du Fils, mais dans le credo de Nicée-Constantinople, c'est l'Esprit qui procède du Père, parce que dans l'Écriture, c'est bien ça qui est dit, l'Esprit procède du Père. Et donc, c'est sûr que dans le credo, vous avez le Fils engendré du Père et l'Esprit procédant du Père. Donc, ça, c'est... Donc là, il reprend les verbes traditionnels de la foi. Autre question avant que on fasse une étape supplémentaire.
Moi, je n'ai pas très bien compris. Le passage se fonde sur Saint Paul qui n'a pas l'esprit du Christ, qui n'appartient pas au Christ, pour dire que le Fils est aussi donateur de l'esprit.
Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas presque jouer sur nous, enfin, parce que l'esprit, est-ce que c'est une citation tellement probante
parce
que... Ah oui, c'est... Que l'esprit vienne du Père, pas que le Père soit donateur, mais l'esprit, c'est d'accord. Ça, même le Fils le dit, le Père vous enverra l'esprit.
Oui.
Mais est-ce que c'est vraiment symétrique,
enfin... Alors non, ça, j'en dirai un mot tout à l'heure. Là, pour l'instant, il ne dit pas que c'est la même... Enfin, il ne dit pas que c'est symétrique. D'ailleurs, au livre 15, il dira que l'Esprit procède principalement du Père, et qu'il procède du Fils, parce que le Père donne au Fils de pouvoir aussi être donateur. Voilà. Tout ça, il va développer ça. Mais pour l'instant, ce qui lui importe, parce qu'il n'y a pas deux donateurs, hein, ça c'est très important. Il y a, en fait, si vous voulez, si vous faites des flèches, il n'y a pas l'Esprit Saint, et puis une flèche qui renvoie au Père, et une flèche qui renvoie à l'Esprit Saint. Il y a don et donateur, c'est une réciprocité, c'est une relation avec deux termes. Sauf que le terme donateur, eh ben, c'est justement la communion du Père et du Fils. Mais ce qu'il faut qu'ils disent, c'est que l'Esprit est l'Esprit, et ça c'est dans l'Écriture, et ce qu'il prend de Romains 8 suffit, hein, c'est de bien comprendre que l'Esprit est aussi l'Esprit du Christ. Et d'ailleurs, il aurait pu prendre d'autres citations de Jean, hein, où Jésus souffle l'esprit sur les apôtres, et il les utilise d'ailleurs à d'autres moments. Mais tu as raison, c'est pas symétrique, bien sûr. C'est tout le problème après dans notre querelle avec les orthodoxes et les orientaux. On continue ?
Le coup du relatif, vous avez pigé, hein. Qu'il y a du relatif en Dieu. Qui n'est pas purement synonyme de la substance et qui est pour autant pas un accident. Alors pour nous, le relatif c'est toujours accidentel, c'est-à-dire que je suis ami dans les rangs, quand je ne suis pas ami, je suis son chef, son dernier. Mais si jamais, à Dieu ne plaise, dans les rangs venait à disparaître, je ne disparais pas. Ça c'est bien la preuve que c'est vraiment accidentel pour moi. C'est pas pour ça qu'il disparaît. Et en... Mais il y a deux manières de parler de Dieu. Il y a une manière qui signifie la substance, sagesse, intelligence, beauté, bonté, tout ce qu'on veut. Et puis il y a une manière un peu différente, mais qu'on a par l'écriture. La première, les philosophes peuvent le dire. Dieu est sage, Dieu est grand, un philosophe peut le dire. Par contre, Dieu est père, et Dieu est père, il y a un fils, et ça, c'est quand même la révélation qu'il nous donne. Donc, il travaille le langage, en fait, aussi, Augustin. Mais si vous êtes philosophe, vous êtes vachement bon, vous êtes plutôt meilleur que...
Que nos étudiants. Alors, on va faire un deuxième petit bijou du De Trinitate, qui est...
C'est magnifique, ce passage.
Ouais, ça vous pouvez le relire, moi j'ai lu 40 fois.
C'est très beau ça. Alors deuxième passage.
Alors ben justement, je vais un petit peu avancer. Avant ça, Après, la question, c'est... La question qui va se poser, c'est l'Esprit Saint, donc, qui est communion du Père et du Fils. Est-ce que c'est une communion seulement de volonté, de sentiment, hein, ou est-ce que c'est une communion... qui a une consistance ontologique. On sait bien que l'Esprit Saint est de l'unique substance de Dieu. Enfin, les trois personnes sont l'unique substance, sont l'unique substance de Dieu. Mais comment comprendre une communion qui soit substantielle ? Et Augustin va s'employer à éclairer ce point dans le livre 6. Donc, et je résume un peu ce qui précède le passage qu'on va lire. Dans le livre 6, il cherche à montrer que les relations d'opposition qu'il vient de poser au livre 5 ne préservent l'égalité des personnes. Hein, toujours très important pour lui. Et il réfléchit, avant d'en arriver sur le point qu'on va lire, sur l'égalité du Père et du Fils. Et il s'attache à un verset très important de Jean, que vous connaissez, « Le Père et moi, nous sommes un. » Et là, cette unité, c'est une unité ontologique, hein, qui est liée à l'unique substance divine. D'ailleurs, j'ai pas le grec, mais le latin, c'est « unum », c'est un neutre. Mais qui se dit du Père et du Fils seulement. Il dit pas le Père, Jésus dit pas le Père, le Fils et l'Esprit, nous sommes un. Il dit le Père et moi, nous sommes un. Alors comment l'Esprit Saint, et ça c'est la question qui va ouvrir le passage qu'on va lire, comment l'Esprit Saint entre-t-il alors, lui qui est la communion et même l'unité, disait-il, hein, du Père et du Fils, comment entre-t-il dans cette unique substance ? Voilà. Alors ça, c'est le début de l'autre page. Voyons que je ne me trompe pas. Voilà, c'est le Saint-Esprit, amour des deux autres personnes. Alors là, on va arriver à le bijou de... Vous avez donc le numéro 7 sur votre feuille. Voilà pourquoi... Ça va ? Voilà.
C'est un neutre aussi.
C'est un neutre aussi, ouais, en grec. Voilà pourquoi aussi le Saint-Esprit a sa place dans cette même unité et cette égalité de substance. Alors, là, il va faire un bond prodigieux, puisqu'il va définir le Saint-Esprit comme amour. Et ça, c'est nouveau. C'est... Qu'il soit l'unité. Mince. Il manque une ligne, non ? Hein ? Alors zut, j'ai mal photocopié. Je vais vous dire la ligne qui manque. Qu'il soit l'unité des deux autres personnes, ou leur sainteté, ou leur amour. Je suis désolé, il manque deux lignes. Ah, c'est dommage. Qu'il soit leur unité parce qu'il est leur amour, et leur amour parce qu'il est leur sainteté. Ça va ? Voilà. Il est clair qu'il n'est point une des deux premières personnes en qui s'opérerait leur mutuelle union. Il est l'unité, il est Hein, qu'il soit l'unité des deux autres personnes, il l'a montré. Enfin, il l'a posé au livre 5.
C'est super mal traduit.
Oui, c'est pas très bien traduit.
Pas personne.
Non, ça c'est vrai, c'est mal traduit, mais j'ai préféré avoir le latin, justement. J'ai une autre traduction, mais bon. Qu'il soit l'unité des deux autres personnes, ou leur sainteté, ou leur amour. Là, vous voyez, il utilise... Bon, sainteté, ça va... On l'avait vu avec l'Esprit Saint, hein, donc la sainteté, elle est commune au Père et au Fils. Et là, il y a un mot nouveau qui apparaît, c'est leur amour, qui est un peu lié à la communion. Qu'il soit leur unité parce qu'il est leur amour parce qu'il est leur sainteté, il est clair qu'il n'est point une des deux premières personnes en qui s'opérerait leur mutuelle union, en qui l'engendré serait aimé de son générateur et l'aimerait, en qui toutes les deux conserveraient, non par participation mais par leur essence, non de par les bons offices d'une autorité quelconque mais par leur propre initiative, l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Donc, il n'est point, celui qui est l'unité des deux n'est point l'un des deux, c'est ni le Père ni le Fils. Et c'est ça qu'il veut d'abord poser. Il n'est pas l'un des deux, il est en même temps leur unité, leur amour, leur sainteté. Ça, c'est un peu lié à ce qu'il avait déjà dit avant. Et c'est là où il va avancer. Je vais sauter un tout petit peu. Le Saint-Esprit, donc je passe au paragraphe suivant, est donc quelque chose de commun au Père et au Fils, quoi que ce soit d'ailleurs. Donc là, on est toujours dans l'idée de communion. Mais cette communauté, communion, hein, c'est le mot communion dans le latin, est consubstantielle et coéternelle. Ça, c'est le donné de la foi. Si le nom d'amitié lui va bien, qu'on l'appelle ainsi. Mais il est plus exact de l'appeler charité. Caritas, qui est vraiment le mot qui désigne le quand vous avez dans Saint Jean Dieu est amour, c'est le mot caritas. Or cette charité aussi est une substance, car Dieu est substance et Dieu est charité d'après l'Écriture. Donc il choisit le mot charité parce que Dieu est charité d'après l'Écriture, et c'est une phrase extrêmement forte, hein. Dieu est charité, il y a quelque chose d'ontologique. Et donc Dieu, et cette charité est donc une substance, et donc il préfère nommer l'Esprit Saint du nom de charité, parce que ça dit bien que l'Esprit Saint est consubstantiel aux deux autres personnes dans l'unique substance divine. D'autre part, de même que la charité est substance en même temps que le Père et le Fils, en même temps aussi, alors là ce qu'il veut aussi montrer, c'est que l'Esprit Saint, qui est l'unité des deux, eh ben, il est égal aux deux. Il n'est ni plus, il n'est pas plus parce qu'il serait l'unité des deux, il est égal aux deux, et il est en même temps que le Père et le Fils, en même temps aussi est-elle grande, bonne et sainte en toute qualification absolue. Et alors je vais aller vers la fin. Ce qui veut dire ici, c'est que la charité n'est pas moins grande que la sagesse. La sagesse, elle est donc égale. Hein. La sagesse est aimée autant qu'elle a d'être. La sagesse est égale au Père, comme nous l'avons étudié plus haut. Donc le Saint-Esprit est égal au Père. Donc, je passe un peu vite, mais vous voyez, c'est toujours cette attention pour bien montrer que même si les personnes sont... Dans des relations, hein, sont relatives, elles sont égales. Alors voilà maintenant où il arrive à la conclusion qui est magnifique. Par conséquent, ils ne sont pas plus de trois. Et c'est ça qu'il faut que je crois qu'on retienne, et c'est ça le coup de génie de ce petit passage. Il y en a un qui aime celui qui tient l'être de lui, et ça c'est qui ? Le Père. L'autre qui aime celui dont il tient l'être, c'est le Fils. Et cet amour même. Et cet amour, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez ? à partir de Dieu charité, de l'Esprit Saint comme communion du Père et du Fils, il arrive à exprimer le mystère de la Trinité dans les termes de l'amour.
C'est génial quand même.
Et ça, c'est...
Il y a l'unité de la distinction en Dieu et la charité, ça dévoile les deux, ça dévoile les deux facettes. C'est bien l'unité que la distinction.
L'amour est présent dans les trois, hein. L'un aimant celui qui tient l'être de lui, l'autre aimant celui dont il tient l'être, et l'amour même. Et là, donc, on a fait un pas de géant. Je redirai, il me reste encore 10 minutes, je redirai un mot de conclusion sur ce point. Mais vous voyez, là, vous avez en quelques lignes, alors malheureusement, c'est vrai que c'est mal traduit, j'aurais pu vous donner une traduction meilleure que j'ai trouvée quelque part, que je n'ai pas faite moi-même. Et puis ça vaudrait le coup de creuser ça plus longtemps, je passe un peu vite, mais vous avez avec ces deux passages un peu deux avancées majeures dans la théologie, et plus que dans la théologie, dans tout ce qui va faire notre histoire occidentale, parce que cette insistance sur l'amour, on va la retrouver dans toute la théologie occidentale, mais même dans tout ce que notre civilisation va développer. Et d'ailleurs, très très vite, c'était dans ma conclusion, mais je vous le dis maintenant, parce que c'est quelque chose que je trouve qui illustre bien. Donc vous savez que saint Augustin est un des premiers, alors du côté occidental, qui a rédigé des règles, enfin pas monastiques, parce que c'est pas des moines, mais saint Augustin a fondé autour de lui, enfin il a eu une vie fraternelle avec d'autres prêtres, hein, donc des prieurés, on appellerait ça des prieurés, et avec des règles. Il y avait aussi ça pour des femmes, d'ailleurs. Et donc, ces règles sont évidemment inspirées toujours par la charité fraternelle. Parce que le modèle qui est derrière, enfin le modèle, c'est parce qu'il voit bien que dans l'Église, c'est la charité qui fait l'unité. Ça, il le dit avant dans le livre 4, par exemple. Le lien entre la charité et l'unité, qui d'ailleurs est dans saint Paul, hein, dans l'Épître aux Éphésiens, qui est au niveau de l'économie, c'est-à-dire au niveau de la manière dont nous vivons dans l'Église le don de Dieu, et l'unité et la charité. En fait, il comprend que c'est déjà le cas en Dieu. Vous voyez, c'est ça. Et donc, ça va être très déterminant dans les règles qu'il va fonder pour ces, je sais pas comment les appeler, c'est pas des monastères, mais donc oui, alors ça, après ça va donner les chanoines, mais à l'époque je sais ça s'appelait pas comme ça, mais enfin, voilà, de ces premières communautés, hein, qui va fonder. Et puis ensuite ça va être repris par saint Benoît, alors de manière très différente, parce que Benoît hérite des règles monastiques, de toute la tradition monastique orientale. Mais dans les règles de saint Benoît, il y a toute l'influence d'Augustin qui va être déterminante. Ce qui fait que le monde monastique occidental qui va fonder notre civilisation, à la différence du monachisme oriental, sera beaucoup plus tourné vers la question de la charité fraternelle.
C'est une différence très sensible.
Alors que l'Orient, vous voyez, c'est plus la vie dans l'esprit, mais une vie ascétique, qui justement, comment est-ce que...
Et puis érémitique, c'est-à-dire que le vrai moine, il doit en donner, quitter
voilà, la solitude.
La communauté pour retrouver Dieu en solitude, et pour les latins, c'est quasiment comme si on disait on quitte la charité, donc ça marche pas. C'est pas en quittant la charité qu'on peut trouver Dieu. Ça, c'est une grosse différence spirituelle, je trouve.
Voilà, et ça, donc, vous voyez, ça, donc, à travers les moines, ça va vraiment... influencer, enfin déterminer, je crois, pour une grande part la civilisation occidentale. Et puis donc toute l'insistance sur l'amour, même si ensuite l'amour sera galvaudé dans notre culture actuelle, vous voyez, on est quand même les héritiers de ça. Quand saint Bernard, évidemment, va méditer sur l'amour de Dieu, sur l'amour de l'homme pour Dieu, donc il entre aussi dans cette tradition. Et vous savez que saint Bernard et l'amour courtois, il y a des liens. Et donc l'amour courtois tel qu'il est né en Occident, eh ben, il serait pas compréhensible s'il n'y avait pas eu cette avancée de saint Augustin. Voilà. Et puis vous avez ça jusqu'à chez Bonaventure, chez saint François Bonaventure. Vous avez ça chez Richard de Saint-Victor. Et puis on peut dire même d'une certaine manière jusque jusqu'au personnalisme du XXe siècle, hein, avec, parce que tu disais que la relation chez nous, elle est accidentelle, mais on voit bien que le personnalisme cherche à penser l'homme un peu comme être de relation, justement, pas comme une sorte de substance close. Et que donc, vous voyez, toute cette insistance sur la relation, elle est très contemporaine aussi, par certains côtés. Pas seulement au niveau de Dieu, mais au niveau des hommes. Voilà, comme je vois qu'on a avancé, que l'heure a tourné, je vais juste dire quelques mots pour terminer. C'est juste, voilà, je vous ai fait un peu plonger dans la Trinité, je ne vous ai pas fait une grande conférence, j'en serais pas capable, mais je voulais vous faire sentir des petits points. Peut-être juste quand même vous dire qu'au livre 8, il y a... Alors, à partir du livre 8, Augustin va quand même se poser la question de ce qu'est le propre de ces personnes. Parce qu'il dit il y a trois personnes dans la Trinité, mais si je dis trois, c'est pas très adapté, parce qu'en fait, aucune des personnes... c'est pas comme trois chevaux qui font partie du genre de l'espèce cheval, vous voyez. C'est pas trois personnes qui font partie de l'espèce personne. Parce que évidemment, trois personnes sont distinctes et elles ont un propre. Et ce qu'il cherche, c'est à dire le propre. Hein, donc, à pouvoir contempler les personnes dans ce qu'elles ont d'irréductible et de propre. Alors, il va chercher à le contempler dans celui qui est l'image de la Trinité, qui est l'homme. Hein, faisons l'homme à notre image. Hein, donc, ça, c'est la Trinité qui parle. Donc, l'homme, il doit y avoir en lui une image, et vous connaissez sans doute une image très connue qu'il va prendre, c'est la trilogie, qu'il invente, on peut dire, à la lumière de la Trinité. C'est qu'en l'homme, il y a la mémoire, l'intelligence et la volonté, hein, qui sont comme les trois facultés qui sont un peu l'image de la Trinité gravée en l'homme. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Avant cela, au livre 8, il va trouver une similitude qui est très intéressante à partir de l'amour. Et c'est même plus qu'une similitude. Voilà, il se pose la question, à partir de quelle similitude croyons-nous en un Dieu que nous aimons alors que nous ne le connaissons pas? Voilà la question. Et il va répondre au numéro 12 du livre 8. Tu vois la Trinité quand tu vois la charité. Et donc, quand j'aime mon frère, eh bien, j'aime l'amour dont j'aime mon frère. Et l'amour dont j'aime mon frère, c'est Dieu lui-même. Et donc, dans la relation de l'amour fraternel, Dieu est présent. C'est plus qu'une similitude. Là, au livre 8, il y a, je vous lis juste la fin du livre 8, il y a quelque chose de très beau. Il va le laisser un peu en plan. Il va le reprendre un peu au livre 15. Voilà. Qu'est-ce donc que l'amour, sinon l'amour du bien? Mais l'amour vient de quelqu'un qui aime, et par l'amour, quelque chose est aimé. Voici donc trois choses qui sont comme plus qu'une image de la Trinité. Il y a celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour même. On retrouve un peu ce qui était dit à l'intérieur de la Trinité. Voilà. Voilà donc trois choses, celui qui aime, ce qui est aimé, l'amour. Il nous reste à nous élever encore, autant qu'il est donné à l'homme de le faire. Pour l'instant, reposons un peu notre attention. Comme se repose d'ordinaire celui qui a trouvé le lieu où il doit chercher quelque chose. Il ne l'a point trouvé encore, mais il a trouvé où la chercher. Donc, Augustin a trouvé le lieu où il allait chercher une image de la Trinité, donc dans cette trilogie de l'amour. Et puis, étonnamment, il va partir sur autre chose à partir du livre 9. Mais voilà, là, il a quand même touché quelque chose, je trouve, qui est intéressant. Et puis, je vais simplement terminer avec la prière qui clôt le livre 15. Hein. Donc, au livre 15, il a passé en revue toutes les analogies, donc la mémoire, l'intelligence, la volonté, enfin, toutes les trilogies qu'il a pu trouver dans l'homme image de Dieu. À partir au livre 15, il arrive quand même à donner ce qu'on appelle des appropriations. Il va dire, mais bien sûr, Dieu en entier est puissance, Dieu en entier est sagesse, Dieu en entier est amour, et pourtant, je peux quand même approprier la puissance au Père, je peux quand même approprier la sagesse au Fils, et je peux approprier l'amour à l'Esprit-Saint. Donc il arrive quand même à dire quelque chose, même s'il dit qu'en fait il ne le peut pas. Et puis, il termine, juste les dernières lignes, je voulais vous... Ah oui, alors sinon, elle est tellement longue la prière, mais je vais pas tout vous lire. Ô toi, donne-moi la force de te chercher.
C'est la Trinité hein, qui s'adresse.
Oui, il s'adresse à la Trinité. Oui.
Toi, c'est la Trinité.
Toi, au singulier, oui. Toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse. Garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. On retrouve la trilogie, la trinité. Augmente en moi ces trois dons jusqu'à ce que tu m'aies reformé tout entier. Et je termine juste les dernières paroles. Quand nous t'aurons atteint, cesseront ces paroles que nous multiplions sans t'atteindre. Tu demeureras seul tout en tous. Nous ne dirons sans fin qu'un seul mot, te louant d'un seul mouvement, et ne faisons-nous aussi qu'un seul tout en toi, Seigneur. Parce qu'évidemment, c'est très beau, hein, nous sommes appelés à être dans la Trinité, hein, dans ce mystère d'unité et de communion. Dieu seul et unique, Dieu Trinité, tout ce que j'ai dit dans ces livres et qui me vient de toi, que les tiens le reconnaissent, et si quelque chose vient de moi, toi et les tiens, pardonnez-le-moi. Amen. Voilà. Merci. Peut-être une question et puis...
C'est peut-être l'espace pour une question.
Une ou deux, oui.
C'est oui. Super, la Trinité.
Parce que quand il dit, par conséquent, ils ne sont pas plus de trois, pourquoi est-ce qu'il est tellement sûr ? En quoi est-ce que ce qu'il dit avant, comment est-ce qu'il en déduit qu'ils ne sont pas plus que trois ? Quand je vois comment il déduit qu'ils sont trois, ou s'il dit, on le sait par la foi qu'ils sont trois, mais je ne vois pas comment de ce qui découle avant, il déduit qu'ils sont trois.
Mais parce que, en fait. Parce qu'il y a le Père et le Fils et celui qui est leur unité. Et une unité substantielle.
Donc, oui, je vois qu'il y a trois, mais pourquoi est-ce qu'il est tellement certain qu'il n'y a pas plus que trois ? Qu'il n'y a pas encore quelque chose qu'on n'a pas vu ?
En tout cas, sa manière de le comprendre à partir de l'amour, comme il le dit à la fin, il y a celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Pas y avoir, enfin, dans sa perspective, c'est pas une démonstration, hein, mais dans sa perspective, il peut pas y avoir plus de trois. Je crois que c'est, à mon avis, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas si tu dirais autrement.
Il y a un côté un peu rasoir d'Occam, alors. Mais je pense que dans l'idée d'Augustin, lui, son combat, c'est un peu le combat inverse, c'est-à-dire c'est d'essayer de penser une distinction sans déchirer l'unité. Donc il n'a pas tellement envie de coller 17 personnes en Dieu, tu vois. Mais il voit que si je dis juste père et fils, engendrement, ça ne suffit pas pour montrer comment, de manière intérieure à Dieu, le troisième advient. Parce qu'après, père et fils, ok, bon, le père engendre le fils. Alors que si je dis amour, d'emblée, j'ai les trois.
Et j'ai l'unité.
Parce que voilà, l'amour, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. L'amour nous singularise, donc il nous distingue, et en même temps, il nous unit. Et il fait les deux en même temps. Donc je pense que c'est presque un peu phénoménologique, d'une certaine manière, mais je pense aussi qu'il y a un principe d'économie. C'est-à-dire que pour lui, si la perfection de l'amour, il ne le dit pas explicitement, mais elle devait se manifester, comme dans une famille, en disant ben,
il faut avoir plus d'enfants.
J'ai plus d'enfants. Et je crois qu'une fois, il y avait un Jean 23, il demandait ça à une dame qui avait, je crois, peut-être 10 enfants. Il lui dit mais comment vous avez fait pour. Répartir votre amour en tous vos enfants, elle a dit que je ne l'ai pas divisé, je l'ai multiplié. Donc, tu vois, l'idée qu'une multiplication, un amour plus grand doit produire différentes personnes, ça c'est propre au terrain de la créature. Mais en Dieu, c'est d'emblée parfait l'amour. C'est ça le côté raison d'Occam, si tu veux. Donc,
Et il n'y a qu'une unité du Père et du Fils, enfin, il n'y a qu'une communion. Qui est justement, et qui est la figure personnelle de l'unité de la substance. Donc, c'est aussi lié à l'unité de Dieu.
Le fait que Dieu a deux unités, unité substantielle et unité personnelle,
voilà. C'est ça.
Ce qui est vraiment génial, c'est qu'il faut les deux. Si ce n'est pas substantiel, c'est l'unité qui va être trop faible de type volonté. Mais si tu n'as pas l'unité personnelle, ça va être une unité, alors je me place au plan politique, de type totalitaire. Parce que la charité nous singularise, l'amour se pose comme une, ce qui est singulier en Dieu, c'est-à-dire la personne elle-même. C'est là où c'est vraiment prodigieux, en fait. C'est ça. Là, je trouve qu'il y a une... Quand Antoine dit c'est toute la pensée de l'Occident, c'est quand même un peu vrai. Hein. C'est quand même un peu vrai. Augustin, il est derrière énormément, pas simplement des théologiens, mais des philosophes, pas simplement des philosophes, mais notre culture.
Notre culture, notre manière d'aimer.
Même dans le pire, aujourd'hui, on va euthanasier des gens par amour.
C'est ça.
C'est Saint-Augustin, quand on va dire un embryon qui est pas dans un projet parental, c'est on va dire, il faut qu'il regarde d'un autre pour qu'un être... On n'est plus dans du substantiel, on va dire qu'il faut qu'il y ait un projet parental pour qu'un embryon soit un homme.
On est presque dans la pure relation. C'est, là.
Voilà, exactement, ça vient de Saint-Augustin.
Ouais.
C'est des idées devenues folles, voilà. Dit Chesterton. Mais Augustin, c'est quand même prodigieux.
Je sais pas si, j'espère que vous l'avez senti, en tout cas. C'est ça le but.
Merci beaucoup, Antoine. Merci.
Voilà, on va les prier.
On va dire...